Bin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Déribine à travers les âges, jusqu'à l'âge du bronze très exactement. Nous sommes dans un champ de Saint-Bélec au cœur du Finistère, sur la commune de Lehan dans les Montagnes Noires. Dans la brume du petit matin de ce début d'automne, des gens s'activent, des archéologues qui fouillent l'endroit. Là, c'était une tombe. Quelqu'un a été enterré ici entre 1900 et 1700 avant Jésus-Christ. Quelqu'un de pouvoir, car une dalle particulière recouvrait sa tombe. Ivan Payet est archéologue de l'Université de Bretagne occidentale et il co-dirige le chantier de fouilles.
Pourquoi fouille-t-on à Saint-Bélec? C'est parce qu'en fait, en 1900, Paul Duchâtelier réalise une fouille archéologique et il va y découvrir une dalle qui va le questionner, une dalle gravée, ornée, et qu'il va rapporter chez lui dans son musée de Carnuse à Pont-l'Avé. Et qui va vraiment, il va publier très rapidement en 1901 un premier papier relatant sa fouille ici. Une fouille, bon, il décrit rapidement, assez sommairement comme c'était à l'époque, la tombe, etc., les structures. Il mentionne simplement qu'on a affaire à une très grande tombe. Et donc cette dalle qui, par ses gravures, l'interroge. Il ne voit pas du tout ce que c'est. Il ne cherche même pas à interpréter. Il laisse ça aux futures générations de chercheurs. Alors, j'ai pas les dimensions exactement en tête. Elle fait pas loin de 3 mètres de long. Elle fait un peu moins d'une tonne. Donc voilà, elle se trouvait dans la tombe, à l'extrémité est. Elle est en vis-à-vis en fait de la deuxième dalle qui est là, la deuxième dalle mégalithique qui est elle en poudingue. Et celle qui nous intéresse était en schiste. Donc voilà, ils ont joué également sur les couleurs. On a un côté une pierre bleue, l'autre côté une pierre blanche. Sur le côté, un mélange de pierres. Il y a du quartzite, il y a du schiste, il y a du granit. Donc en fait, ça aussi c'est très important à prendre en compte dans la constitution de la tombe parce que clairement ça indique qu'il y a des sources différentes de matières premières qui ont été exploitées. Et c'est assez rare dans le cadre d'une construction d'une tombe de l'âge du bronze. Généralement, une tombe de l'âge du bronze, on prend ce qu'on a à disposition. Si on n'a pas de cailloux à la rigueur, on creuse à même le sol une fosse, on enterre le défunt, on le met dans un cercueil en bois ou un linceul, et puis merci, au revoir.
On ne s'embarrasse pas de décoration.
C'est qu'on peut faire très simple et efficace, et c'est même pour un statut assez important, pour un personnage avec un statut assez important. Mais là, ils ont clairement eu la volonté de construire un tombeau monumental. Et ça, c'était un peu ce qui nous questionnait aussi avec Clément, c'est-à-dire on a un tombeau monumental, mais finalement, hormis cette dalle qu'on a interprétée comme une carte en 2021, il n'y a pas vraiment d'objet qui pourrait indiquer un statut social important de l'inhumé. La seule chose que Paul Duchâtelier a trouvé, c'est une céramique écrasée sur place, décorée, tout à fait classique de cette culture des tumulus armoricains. Mais pas d'objet prestigieux venant de contrées lointaines, de l'ambre ou autre chose. Donc en fait, on se dit, c'est bizarre, on a ce document qu'on interprète comme une carte, donc qui est donc, on imagine que c'est quelqu'un qui l'a, il y a eu un commanditaire, le commanditaire c'est probablement un chef, un potentat. Donc qui se fait enterrer finalement avec cette carte? Pourquoi finalement il n'y a pas d'objet qui pourrait indiquer un certain prestige de la personne? Donc toutes ces questions, ça fait partie des questions qu'on a, qui expliquent pourquoi on refouille ce tumulus 120 ans après. Il y en a d'autres. Parce qu'en fait, on sait que la dalle ornée, pour l'avoir étudiée au Musée d'Archéologie Nationale, il manquait des bouts. Il y a des bouts qui étaient tombés. Et on ne savait pas trop si les bouts étaient tombés. En fait, c'était assez compliqué à savoir si c'était Paul Duchâtelier en extrayant la dalle qui avait cassé des bouts, si c'était les hommes de l'âge du bronze qui également avaient pu en casser des bouts. Parce qu'en fait, on voit bien, à chaque fois qu'elle est prise en photo, il manque toujours un petit bout. Donc finalement, il y a des bouts qui se perdent. Mais c'était.
Mais elle était quand même posée. Enfin, elle n'était pas. Elle n'avait pas été visiblement bouleversée. Entre l'âge du bronze et sa date de découverte.
Non. C'est-à-dire que quand elle a été posée à l'âge du bronze, après, elle est restée dans cet état-là jusqu'à la fouille de Paul Duchâtelier.
Donc ça valait le coup quand même d'explorer les environs.
Tout à fait. Tout à fait.
Pas Parmi les fouilleurs, il y a un bénévole qui n'est autre que Jean-Luc Feillon, le président de l'Association des Mémoires de Châtelain. Il charrie des cailloux dans sa brouette et il garde ceux qui semblent intéressants, qui pourraient être des fragments de la fameuse dalle carte.
Il faut voir si c'est lisse, regarder l'ensemble des cassures, si les cassures sont droites.
Ah ouais.
Ouais.
Donc c'est du schiste, c'est à laver quoi.
Ouais. C'est du schiste et du coup on met tout le schiste de côté parce qu'on a trouvé dans la tombe des petits cailloux, je sais pas, vous avez peut-être vu, des petits fragments en fait qui viennent de la dalle où les archéologues là sont sûrs qu'il y a des traces de cupules et on veut pas passer à côté quoi.
On a du granit, c'est bien.
Promenons-nous sur cette fameuse carte avec Ivan Paillé.
Avec Clément et Nicolas, on a étudié la dalle. En fait, ça partait simplement du fait qu'on avait eu à 10 ans d'intervalle, puisqu'on a à peu près 10 ans d'écart. Donc l'intuition, en lisant l'article de Paul Duchâtelier, en voyant le dessin et la photographie, qu'en fait on avait affaire à un document cartographique. Donc on en a discuté, parce qu'on se voit souvent, on travaille ensemble. Et donc on s'est dit, c'est bien d'avoir cette intuition, maintenant il faudrait pouvoir démontrer la chose. Donc démontrer, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc ça a pris beaucoup de temps, parce qu'on l'a fait comme ça, en slow science, on n'avait pas c'était pas un projet ANR ou quoi que ce soit.
Et vous n'aviez pas de financement spécialement quoi.
Non. Mais on a quand même réussi à s'entourer de géomaticiens, de gens de spécialistes, qui nous ont aidés dans l'approche cartographique aussi, justement. Parce qu'en fait, pour pouvoir démontrer que c'était une carte, il fallait tester statistiquement notre raisonnement et voir la validité de ce qu'on croyait voir sur cette carte, ce qu'on croyait être représenté sur la carte. Donc c'est bien beau de dire on a l'OD en contrebas qui coule, c'est une évidence. Ouais, mais bon, c'est une évidence pour nous, mais faut pouvoir le démontrer. Et donc les modèles statistiques montrent à peu près à 80% qu'on a bien affaire à une carte. Ce qui est beaucoup pour une carte qui a été faite par des gens, c'est des cartes mentales en fait. Donc les gens, ils n'ont pas, enfin, il n'y a pas.
Vous n'avez pas des drones ?
Non, voilà. Donc il n'y a pas de satellite, il n'y a rien. Donc en gros, c'est des gens qui connaissent leur territoire et à la manière de différentes ethnies de par le monde, ils sont capables de produire une carte finalement relativement précise de leur environnement.
Donc l'OD et des reliefs, c'est ça ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dessus ?
On a l'OD, les lignes de crête des montagnes noires. On a plusieurs. Rivières ou fleuves littoraux qui se jettent après dans la mer. On a l'Yerre, enfin on a différents qu'on a bien reconnus. Peut-être certains petits massifs qui sont vraiment très visibles dans le paysage. Là-bas, on a un massif granitique qui est bien représenté. Enfin, ça peut être que ça en fait sur la carte. Il est représenté. Enfin, il était dégagé en bas-relief et donc ça fait comme un petit piton quadrangulaire en relief, on ne peut pas le rater quand on regarde la carte, et il est au milieu de la vallée de l'Odé. Donc ça colle parfaitement bien. Et évidemment, il y a plein de symboles qu'on n'a pas réussi à interpréter. Et là, évidemment, c'est la suite du travail. Et c'est aussi pour ça qu'on est revenu sur le terrain. C'est d'une part, comprendre mieux la tombe, parce qu'on pense que Paul Duchâtelier est quand même passé à côté de beaucoup de choses, surtout au bout de la deuxième année là, de fouilles. Parce qu'on a pas mal de résultats. On a retrouvé des fragments de la dalle. On en est à 3 ou 4 fragments qui vont pouvoir être recollés sur la dalle. Donc on va jouer au puzzle quand on va retourner à Saint-Germain-en-Laye.
Elle n'est pas encore complète, mais pas loin ?
Ouais, il manquera encore quand même, je pense, quelques bouts. Mais ça va commencer à être pas mal. Et ça va vraiment apporter de l'eau à notre moulin, quoi. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de décoder en fait tous les symboles représentés sur cette carte. Ces symboles de lignes enchevêtrées, en fait, c'est des lignes, c'est beaucoup de lignes enchevêtrées, parfois des lignes qui se coupent perpendiculairement, qui pourraient évoquer soit des chemins, soit des parcellaires. Enfin, il y a beaucoup de cupules, des petites, parfois groupées en petits tas, ou parfois c'est juste une grosse cupule isolée qui peut faire 5-6 cm de profondeur creusée dans la pierre. Donc voilà, tous ces motifs n'ont pas la même signification. Donc maintenant, l'idée, c'est d'essayer de comprendre en travaillant vraiment sur ce territoire représenté sur la carte.
Oui, qui représente à peu près quelle surface ?
Une trentaine de kilomètres de long.
Ça pourrait être son domaine, en fait, cette personne ?
Notre hypothèse, c'est ça, c'est qu'en fait, on a la carte d'un territoire, d'un royaume, en fait, d'un royaume de la Jouvence. Par les différents travaux que Clément a réalisés dans le cadre de sa thèse, notamment en se basant sur la position des tombes princières, des tombes royales, peu importe comment on les appelle, les tombes élitaires en tout cas, on voit se dessiner des territoires qui font autour de 30 km sur 30, ou 30 sur 40, ou 30 sur 20, selon les endroits. Ils sont plus petits dans le Léon, parce que peut-être les terres sont plus riches, machin, et puis un peu plus grands dans les montagnes. Mais c'est vrai qu'on se disait avec Clément qu'il y avait depuis longtemps que quand on regardait ces territoires pour la Basse-Bretagne, il y avait comme un trou dans les montagnes noires, parce qu'en fait on a un tumulus princier dans les monts d'Arrée, mais il n'y en avait pas dans les montagnes noires. Du coup ça faisait un territoire immense, et en fait si on place celui-là en se disant, même si c'est pas forcément la tombe princière, quoique on pourrait y revenir, ça pourrait être quand même pas loin d'être l'épicentre d'un autre royaume. Et là du coup ça fait sens, et on a vraiment des choses qui sont cohérentes avec les dimensions des autres royaumes.
Clément Nicolas, justement, n'est pas loin. Il est archéologue au CNRS, spécialiste des premières sociétés métallurgistes. Et il va nous expliquer comment s'organisait le pouvoir à l'âge du bronze.
Je travaille sur les premières sociétés métallurgistes en Europe Atlantique, dans lesquelles on voit justement des signes de forte hiérarchisation à partir dès le début de l'âge du bronze ancien.
Et pourquoi c'est lié à la maîtrise de la métallurgie, en fait, le pouvoir? C'est ça qu'on doit comprendre?
Il y a plusieurs choses qui se passent. Justement, il y a une métallurgie qui émerge, qui se développe, avec une métallurgie faite à partir de cuivre et d'étain. Et le cuivre et l'étain, ça ne se trouve pas partout. Et ça se trouve, pour l'étain, on en a en abondance en Bretagne. Cuivre, on en a quand même un petit peu, qui a dû être exploité. Mais pour réunir ces deux éléments partout en Europe, va falloir mettre en place des réseaux de circulation, des réseaux d'échange à très longue distance. Donc par exemple, on a du cuivre irlandais qui arrive sous forme de hache-lingot à cette période-là en Bretagne. On va retrouver des haches anglaises dans le nord de la France, et même quelques haches bretonnes qui vont retraverser la Manche. Donc on a tous ces témoins-là de flux d'échanges autour des minerais qui sont très importants à cette période-là, et donc qui vont resserrer les liens très fortement entre les élites de Basse-Bretagne et les élites du sud de l'Angleterre. Et on va retrouver dans les tombes bretonnes des objets de luxe. Par exemple, on va retrouver, il y a un objet assez fabuleux qui est une petite perle d'espacement en jet qui provient de colliers en forme de lune que se faisaient faire les élites du nord de l'Angleterre. Et alors ce collier-là, à un moment de sa vie, il va être démantelé. Il va traverser la Manche, et en Bretagne, ils vont le retravailler pour lui donner la forme de brassard qui était un des insignes du pouvoir en place à cette période-là. Donc on a déjà une idée des réseaux, des liens qui pouvaient se tisser entre les élites, qui se sont accaparés clairement ces trafics. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est ce qui reste, le métal. Après, on peut imaginer qu'il y avait toute une série de productions en matière organique, du textile, du travail de cuir ou d'autres choses, voire de denrées, qui pouvaient circuler des deux côtés de la Manche. C'est ça qu'on trace beaucoup plus difficilement. Et en même temps qu'émerge cette métallurgie, en fait, elle n'émerge pas toute seule. Il y a aussi une société fortement hiérarchisée qui va émerger. Et en même temps qu'ils vont contrôler la métallurgie, les réseaux d'approvisionnement, les réseaux de circulation, ils vont aussi commencer à s'approprier la terre, gérer la terre. Et donc, à partir de 2000 avant notre ère, en Bretagne, mais aussi en Normandie, on retrouve des réseaux de systèmes parcellaires, en fait, de bocages de l'âge du bronze, qui se développent avec des fossés profondément ancré dans le sol, avec le souci de marquer durablement les limites des propriétés. On retrouve ça aussi sur la côte avec des murs en pierre, et donc ces parcellaires émergent il y a 4000 ans.
On peut parler de petits royaumes
Exactement, c'est l'hypothèse auquel on arrive aujourd'hui, parce que traditionnellement dans l'anthropologie, dans les comparaisons, on a classé ces sociétés sous le terme de chefferies, mais qui sont un terme un peu vain et qui n'a pas vraiment de réalité historique. Et par contre, quand on recherche des sociétés un peu comparables dans l'organisation sociale, où on va se retrouver avec des élites toutes puissantes qui s'accaparent tous les biens du territoire, en tout cas qui les détournent à leur profit, on retombe sur des sociétés en fait, où ce sont des royaumes. Ces gens-là sont des autocrates de rois divins et sont des rois divins. Et c'est, disons, la comparaison ethno-historique la plus proche qu'on puisse trouver à l'heure actuelle.
Et ce qui marque leur puissance, c'est le tumulus, enfin je ne sais pas comment on dit exactement, c'est la tombe, c'est finalement, pour l'archéologue.
Ce qui est intéressant, c'est que dans les marques de puissance, il y a des choses qui sont visibles et des choses invisibles. La tombe, elle va être cachée, mais en fait aussi les pointes de flèche, ils se faisaient fabriquer des magnifiques pointes de flèche avec des ailerons très longs, mais une fois monté sur une rampe de flèche, on ne voyait plus rien. Mais l'important, ce n'était pas que ça se voit, mais que ça se sache. Et donc, il y a aussi la majestuosité de la tombe, le volume du tumulus. Oui, ce sont clairement des marques de puissance, des marqueurs dans le territoire.
Ça existait avant les tumulus? Ça apparaît à l'âge du bronze?
Non, ça existe déjà avant, en fait, à une autre période de hiérarchisation assez aiguë, il y a 6500 ans, alors un peu partout dans l'ouest de la France, mais surtout autour du golfe du Morbihan. On a tout le secteur de Carnac, auquel on a aussi tous les mégalithes. Et là-dedans, on va avoir des tumulus encore plus monumentaux, des tumulus allongés avec des haches en roche alpine, des bijoux en varicite ibérique. Finalement, ça, on a la préhistoire récente bretonne, mais aussi on peut appliquer ça à d'autres régions d'Europe. C'est une succession de stress aigu dans l'autocratisme, si on veut résumer assez rapidement, et de zones finalement où peut-être que le pouvoir, les richesses sont un peu plus partagées. Le territoire qui est figuré sur les cartes représente à peu près autour de 500 km². Donc c'est quand même un des plus grands qu'on aurait pour la Bretagne. Mais on observe, c'est la même chose qu'aujourd'hui, c'est que à l'intérieur des terres, on a des grands espaces. Et par contre, sur le littoral, on est plein à se disputer des bouts de territoire. Et en fait, on retrouve ça aussi dès l'âge du bronze ancien, c'est que ces tombes d'élite se trouvent plus densément sur le littoral, et par contre de manière un peu plus lâche dans l'intérieur des terres.
Donc lui, il avait sans doute un territoire plus grand, mais bon, peut-être moins riche pour autant.
En tout cas, a priori sans accès direct à la mer. Donc quand on échange avec les Irlandais et nos amis britanniques, on est plus en première ligne, mais par contre avec probablement des richesses en minerais, en étain et possiblement en cuivre, aussi des terres assez riches, quand même il avait de quoi se défendre. Quoi.
Mais vous savez pas parce que vous n'avez pas encore fouillé du tout dans le secteur, c'est ça hein?
En fait, le secteur des montagnes noires a été assez peu prospecté, fouillé. Tropisme aussi de l'archéologie bretonne. Le littoral, c'est sympa. Mais bon, il y a quand même eu des fouilles de l'autre côté, au plus au nord des montagnes noires. Alors pas forcément pour la période précisément de l'âge du bronze, mais on a eu quelques fouilles d'ampleur, notamment du côté de Pôle, dans les Côtes d'Armor. Mais c'est vrai que c'est un coin relativement délaissé de l'archéologie bretonne. Donc on part, hein, je ne vais pas dire de zéro, mais par rapport à d'autres secteurs qui sont beaucoup mieux documentés, on part assez loin. Si notre interprétation des rivières est assez juste, en fait, le centre de la dalle gravée se trouve aux confins des sources de l'Odé, de l'Isole et du Sterler. Et c'est exactement la localisation de la commune de Roudoualec. Et il y a des formes dans le paysage. En fait, le bourg même de Roudoualec est inscrit dans une forme paysagère qui n'est pas sans évoquer le motif central de la dalle gravée. Alors, à quel point cela correspond à une occupation de l'âge du bronze ancien, ça, il va falloir le vérifier
Ouais, vous avez pas, dans la carte, il n'y a rien qui vous indique que c'est des villages. Enfin, vous ne pouvez pas être sûr que tel symbole veut dire village.
Bah, en fait, vu qu'on n'a pas la légende, il faut aller le vérifier sur le terrain.
Et Roudoualec n'a jamais été fouillé.
Et Roudoualec, en tout cas, cette partie-là, non, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de découverte particulière. Et alors, c'est une partie qui est un peu... on a un peu de cassure, donc on n'arrive pas à bien apercevoir. Mais on est... Du coup, sur la carte, la partie la plus précisément figurée en relief, c'est justement c'est la partie de la vallée de l'Audet qu'on peut voir depuis le tumulus. Et donc, on voit très bien les montagnes noires. Et là, on se trouve sur le versant sud de la vallée de l'Audet, quoi, la partie sud de la vallée de l'Audet. Donc, on peut la relocaliser. Après, il y a quelques cupules, mais est-ce qu'une cupule est un tumulus? Ça, c'est une question. Où il y a tellement de cupules sur la dalle, il y a tellement de tumulus dans le secteur, qu'on peut trouver toujours un. C'est seulement quand on aura une idée un peu plus précise des symboles qu'on pourrait peut-être s'interroger sur le sens des cupules et voir si ça marche vraiment à un point de vue local avec tel ou tel tumulus. Quoi.
Et les autres tumulus, ouais, paraissaient pas si important que celui-là. Enfin, il valait pas le coup.
Bah, ce tumulus-là, c'est pas un des plus imposants. On connaît des. Alors Paul Duchâtelier décrit une butte très étalée qui fait 40 mètres de diamètre. Nous, on a pu retrouver les limites. Originel du tumulus qui fait une vingtaine de mètres de diamètre, mais qui devait faire 3 à 4 mètres de hauteur. On a des tumulus décrits anciennement qui font 40 à 50 mètres de diamètre et jusqu'à 5 mètres de hauteur. Donc on est plutôt dans la catégorie moyen tumulus. Par contre, la tombe en elle-même, c'est une des 10 plus grandes tombes fouillées à ce jour en Bretagne pour cette période. On a à peu près 3 indices de puissance ou de statut social. Ça va être les dimensions de la tombe, l'investissement dans l'architecture du caveau, la taille du tumulus et les dotations funéraires. Alors ça peut marcher les trois ensemble, c'est-à-dire dotation luxueuse, grande tombe et gros tumulus. Mais ça peut des fois ne pas marcher. Donc c'est pas quelque chose qui est systématique et ça c'est quelque chose qu'on veut aussi étudier en détail en réinventoriant toutes ces tombes là, voir comment l'expression de ces hiérarchies sociales va s'exprimer selon les contextes et qu'est-ce qui marche le plus ensemble quoi. Est-ce que c'est la tombe et les dotations funéraires ou la taille du tumulus et les dotations funéraires, mais on peut avoir par exemple des tombes très simples en une simple fosse mais avoir un poignard dedans. Mais on peut avoir des tombes quasiment équivalentes, mais avec juste une poterie ou rien dedans. Donc ce n'est pas toujours en rapport.
Et là, est-ce que vous avez évalué justement le nombre de gens qu'il aurait fallu et le temps pour construire la tombe?
Bah ça, on va se pencher sur la question, mais là, c'est une équipe au moins d'une douzaine, quinzaine de personnes qui travaillent pendant plusieurs semaines. Notre collègue géologue nous dit, toutes les pierres utilisées ici, se trouvent au minimum dans un rayon de 5 km. Alors c'est peut-être que l'affleurement il peut se trouver plus loin, mais... Et la plupart des pierres proviennent de l'autre côté de la vallée, au pied des montagnes noires. Malgré ça, ça fait quand même un sacré volume de pierres, de terre, de temps pour creuser la fosse. Tout ça, ça s'est pas fait, clairement pas fait en un jour.
Qu'est-ce qu'on sait de l'inhumé? C'est un homme apparemment.
Alors pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. On ne connaît pas son genre. Ça pourrait être une dame. Ça peut tout à fait être une reine. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas non plus son statut. À dire vrai, on sait que la tombe est impressionnante. Elle est monumentale. C'est certainement pas un monument qui a été construit au hasard. Ça a demandé un investissement très important de la part d'une communauté villageoise de paysans et d'éleveurs. Quand on construit un tel monument, qu'on fait venir des dalles mégalithiques de 2-3 km, c'est quand même des sacrés déplacements. Ça veut dire que la communauté s'arrête de travailler quasiment. Hein. C'est-à-dire que tous les hommes valides sont forcément réquisitionnés pour construire le tombeau. Il faut avoir des stocks. Il faut nourrir ces bras, en fait, qui vont travailler à la construction du tombeau de cette personne qui est manifestement quelqu'un quand même d'important dans la communauté. Donc oui, c'est pas la tombe de n'importe qui.
Mais on n'a plus de restes humains, enfin, ça n'a pas été conservé. Alors, du tout.
Paul Duchâtelier signale quelques restes osseux. Bon, je pense que c'est des fantômes d'os qu'il a observés. Et en fait, à l'époque, on ne pouvait pas en dire grand-chose. C'est dommage parce qu'à l'heure actuelle, même des petits fantômes d'os, on arrive parfois à en sortir des éléments intéressants, parfois sur l'âge, sur le sexe, parfois. Enfin.
En tout cas, d'après lui, il n'y avait qu'une seule personne dans cette tombe.
Alors, généralement, les tombes de l'âge du bronze sont des tombes pour une personne, un inhumé. C'est un peu la grosse différence avec les sépultures collectives de la fin du néolithique, où on a des allées couvertes, notamment, et où on peut avoir toute une communauté villageoise qui est inhumée dans le même monument. Quitte à faire de la place de temps en temps, enfin, peu importe, mais voilà, il y a des aménagements qui se passent aussi, un peu comme avec nos ossuaires avant en Bretagne où voilà on
met là c'est pas le tumulus à galerie comme on peut
Donc là on a vraiment une tombe qui a été faite pour un individu, voire dans certains cas deux individus. On a quelques cas de tombes doubles, mais elles sont rares. Et en fait, quand ça a dû se passer, c'est que possiblement les deux personnes sont décédées peut-être de manière concomitante, et donc on les a mis dans la même tombe, probablement du fait de leur parenté. Voilà. Mais ça, c'est rare.
Vous trouverez sur le site internet de l'INRAP, l'Institut National de Recherche et d'Archéologie Préventive, un article très détaillé sur la dalle de Saint-Bélec, la plus ancienne carte d'Europe découverte à ce jour. Cette émission a été réalisée par Véronique Museau avec le concours de Pierre-Louis David et de Morgane Bréfort.